Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Conférence de Laura Winkler, philosophe, écrivaine. À Paris, Espace Le Moulin, jeudi 25 octobre 2018.
Bien, bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents de vous voir si nombreuses. Apparemment, les sujets de Jung et les âges de la vie semblent intéresser beaucoup de monde. Pour les âges de la vie, je crois que c'est utile de nous intéresser, puisque nous allons passer tous, d'une manière ou d'une autre, avant ou après, c'est dans l'ordre des choses. Et pour ce qui concerne la pensée jungienne, je pense que, je ne sais pas si tout le monde sait, effectivement, qu'il a fait toute une étude et réflexion sur ce thème des âges. C'est peut-être un petit peu original, je vais vous en parler. Moi-même, je m'étais intéressé à ce sujet. J'ai écrit un ouvrage qui pour l'instant est épuisé, qui s'appelait « Comprendre les âges de la vie et en trouver leur sens ». Puisque je m'intéresse effectivement à toute la notion des cycles, je vous ai dit effectivement que dans mes sujets de réflexion, je m'intéresse aussi à l'astrologie, et on peut faire une lecture des différents âges à la lumière des grands cycles planétaires. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, ce qui m'a plu beaucoup, c'est que justement, en découvrant que Jung aussi avait travaillé sur le sujet, c'est pour ça que j'ai rééditerai les livres avec quelques annexes, il aime faire une parabole, une sorte de métaphore, comparant la vie humaine au cycle d'une journée. Donc il dit qu'on peut, d'une certaine manière, considérer avec l'esprit d'analogie ou de comparaison que la vie humaine est un processus, comme une journée du soleil, qui s'élève, comme tout le monde sait, à l'est, se couche à l'ouest, et entre-temps, se manifeste dans toute sa splendeur à midi, avant de se coucher, disparaître, et puis dans les cas du soleil, réapparaître le lendemain, ayant traversé cette étrange zone de la nuit, que les Égyptiens connaissaient mieux que nous, les modernes, puisque pour eux, effectivement, la vie était l'ensemble de vie et de mort, le double cycle, puisqu'il fallait savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le soleil réapparaissait le lendemain à l'est, tout en l'ayant vu disparaître par les portes de l'Occident. D'ailleurs, Orient et Occident, peut-être vous le savez aussi, Oriens veut dire le lieu de la naissance, c'est la naissance de la lumière, donc du soleil, et Occidens, c'est le lieu de la mort. Alors, nous voyons déjà de quel côté du monde nous nous situons. Mais on est toujours à l'Orient de quelqu'un et à l'Occident de quelqu'un, donc il n'y a pas de problème. Ça serait d'autres sujets à réfléchir. Donc je voudrais commencer, disons, ma conférence en lisant un petit texte très court de Jung, justement, qui l'appelle « La métaphore du parcours diurne du soleil ». Au matin, il émerge de l'océan nocturne de l'inconscient et contemple la vaste étendue étincelante qui s'offre à lui dans un moment d'expansion qui s'élargit fur et à mesure qu'il monte au firmament. Dans l'extension de son champ d'action, qu'entraîne son propre lever, le soleil va découvrir sa propre signification. Il va se voir atteindre son zénith et la plus belle dissémination de ses bienfaits, où il reconnaît son véritable but. Il poursuit avec assurance sa course jusqu'au zénith imprévu parce que sa carrière est unique et individuelle et que son point culminant n'est pas calculable à l'avance. Au deuxième coup de midi, il amorce sa descente. Cette descente implique le renversement de tous les idéaux et valeurs qui étaient l'objet de ses attentions du matin. Le soleil entre alors en contradiction avec lui-même, on dirait qu'il absorbe ses rayons au lieu de les émettre. Lumière et chaleur déclinent pour finir par s'éteindre. Heureusement, nous ne sommes pas des soleils levant ou couchant. Mais il y a en nous quelque chose qui ressemble au soleil, et parler du matin et du printemps de la vie, et de son déclin et de son automne, ne relève pas d'un simple jargon sentimental. Donc, autour de cette idée, nous allons développer notre exposé de ce soir, autour d'un principe qui me paraît clé dans ce que Jung essaie de nous transmettre, qui est ce que vous avez peut-être entendu, parler ce qu'il nomme les processus d'individuation. Jung est convaincu, et il essaye un tout petit peu de nous partager cette idée, que l'être humain apporte avec lui une sorte de programme de développement de lui-même, qui se manifeste sur le plan biologique, mais aussi sur le plan intérieur, pourrions-nous dire, affectif, mental. Toute notre vie, en quelque sorte, a une préfiguration. C'est-à-dire, chaque âge et chaque moment va nous permettre d'actualiser différentes facettes de nous-mêmes. Tout cela dans un but qui est celui d'essayer que l'individu, l'être humain, se réalise comme une totalité. Parce que la notion d'individuation de Jung, pour ceux qui la connaissent pas trop, est celle de dire chaque être cherche à devenir une totalité significative. Individu, on va reprendre l'essence platonicienne du terme, c'est ce qui n'est pas divisé, indivise. Et nous, effectivement, dans notre mode de fonctionner, nous nous sentons souvent éclatés en mille morceaux. Les pensées d'un côté, les sentiments de l'autre, le corps fait ce qu'il veut. Enfin, si on reprend les chevaux de Platon, l'attelage n'est pas très bien tenu. Ça part un peu dans tous les sens. On est plutôt éclaté que rassemblé. Et néanmoins, on sent au fond de nous-mêmes ce besoin de retrouver du sens, de retrouver un centre, quelque chose qui puisse unifier tout ça. Dans toute l'aventure de l'existence, pour Jung, est comment faire pour retrouver ce centre qui fera de nous des êtres centrés, mais en sachant que l'individu est le contraire de l'individualiste, disons de l'être égoïste qui est centré sur lui-même en tant que petite personne. Parce que comme Jung l'explique, en fait, l'individu n'exclut pas l'univers, il l'inclut. Donc sa notion d'individuation est extrêmement riche et complexe. Et alors on va essayer un tout petit peu d'expliquer comment il voit ça. Il voit ça en expliquant déjà, enfin je fais une petite préambule de quelques notions platoniciennes sur ce qu'on va... Pardon, jungienne sur la conception de l'homme, de l'être humain. Et peut-être vous savez, n'est-ce pas, qu'il explique qu'il y a en chacun de nous le conscient et l'inconscient. Nous sommes des êtres qui portent en eux une dualité. La part consciente de nous-mêmes est gouvernée par notre ego. Et il va dire, dans toute la première moitié de l'existence, tout le travail que nous faisons, notre programmation, entre guillemets, évolutive, a pour objet de construire un ego, de construire un moi suffisamment solide. Donc, effectivement, on est dans cette expansion du moi. Et cette expansion du moi qui va passer par les phases de l'enfance, l'adolescence, en fait, le début de l'âge adulte, va se construire à travers toutes ces relations avec le monde qui l'entoure. Et dans ces relations, pour commencer un tout petit peu à nous rassurer, nous élaborons une sorte de, on va appeler ça des masques qui nous entourent, qui nous couvrent, qu'il va appeler la persona. Donc on construit un individu social et bon, on est très affairé, n'est-ce pas, pour intégrer toutes les données, déjà sur les points de vue biologiques. L'enfant a un travail énorme. Bon, on sait maintenant que déjà les bébés sont hyper occupés, mais il y a plein de choses qui se passent. Aujourd'hui, on connaît très très bien dans la psychologie du développement les phases incroyables d'acquisition, des connaissances, des contacts, d'ouverture. Donc en fait, chaque être humain est un être de relation et en relation. Et au début, c'est cette relation avec les autres, les parents, les êtres proches, ensuite ça sera les éducateurs, les copains, etc., etc., qui construisent les repères à travers lesquels on commence un tout petit peu comme ce soleil qui s'élève, à dire, bon, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces potentiels? Donc, je commence un peu à les déployer, à les manifester, et il est normal que dans un premier temps, cette part, entre guillemets, plus extérieure, ou plus, que Jung appellera un peu le conscient en nous-mêmes, devient plus importante. Mais, et c'est là où il y a la subtilité, je dirais presque orientale de la pensée de Jung, c'est qu'il explique toujours que, il y a en nous toujours un jeu des opposés. C'est-à-dire, nous sommes des êtres qui cherchent toujours à créer un certain équilibre. Donc, comme le jeu du yin et du yang de la philosophie chinoise, si on s'affirme trop vers cette extériorité, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui compense ou qui essaye un tout petit peu de se manifester dans un jeu d'équilibre. C'est un peu comme ce qui se passe physiquement. Et nous, on se maintient en vertical, mais on est toujours en train d'équilibrer les situations. Plus haut, plus bas, nous et les autres, vous comprenez? On n'est pas tout seul et les choses sont pas comme notre petit mental, notre mental rationnel les imagine. Voilà, les choses sont comme je les vois. Non. Il y a ce que tu vois et ce que tu vois pas. La vie est beaucoup plus complexe. Donc, si dans un premier temps, tout notre processus, c'est cette extériorisation et cette maturation et affirmation, m'as-tu vu, je suis le meilleur, enfin bref, l'ego qui s'est fait les muscles, il va arriver un moment, selon lui justement, quand on arrive un peu à cette transition du milieu de la vie, dans lequel, tout d'un coup, comme il est dit là, ce soleil qui allait vers son zénith va commencer à changer de direction. Et symboliquement, ce changement de direction, Jung va l'associer au fait que, à partir de ce moment-là, ce n'est plus l'expression du moi qui devient très importante, mais la maturation du soi. Donc, il faut que je vous explique un petit peu. On avait cette part, enfin, j'aime bien un schéma pour représenter la pensée jungienne qui nous montre une sorte de couronne extérieure qui symbolise le conscient, la pellicule externe, vous voyez, comme c'était la partie du contact avec l'environnement, c'est la persona. Mais à l'intérieur de cette part, cette espèce de couronne, qui est la partie que nous connaissons de nous, où se situe l'ego, il y a l'inconscient. Et en particulier, ce qu'il appellera aussi l'inconscient collectif. Et au cœur de cet inconscient, c'est-à-dire de la part que nous ne connaissons pas de nous-mêmes suffisamment, se situe le cœur de l'être, que Jung va appeler le soi. Le self, le soi, peut-être ce terme vous dit quelque chose, hein, vous avez dû entendre parler. Et Jung lui-même dira qu'il s'est inspiré dans la notion du soi, quand il va élaborer ce concept, de la notion hindoue de l'atma. C'est-à-dire, en fait, c'est une racine intime, profonde et spirituelle, puisqu'elle ne renie pas la dimension spirituelle dans l'être humain. En réalité, tout en nous émane du soi, et du soi émane tous les archétypes qui sont dans l'inconscient, l'ombre qui est ce qui est la contrepartie invisible, ou, si vous voulez, les portes de l'inconscient en rapport avec le conscient, mais aussi le moi et aussi la persona. Tous les archétypes, toutes les formes sont des émanations du soi. Donc, quand nous on est un peu dans le dualisme, le moi est mauvais et le soi est bon, vous voyez, toute vision dualiste et d'opposition ne rentre pas dans cette vision jungienne qui est une vision d'intégration. D'accord? Il n'y a pas les méchants ou les bons du film. Le soi inclut ce qui peut nous apparaître comme bon ou comme mauvais. Ça, il l'explique très bien aussi à travers les livres rouges. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, en fait, toute la question, c'est comment sortir de cette apparence de dualité pour nous réintégrer nous-mêmes. Donc, on a un temps pour s'extérioriser, pour aller vers l'extérieur, s'affirmer, etc. Il y a un autre temps pour revenir vers l'intérieur et faire émerger des choses qui étaient au plus profond de nous-mêmes. Donc, également, de pouvoir, par exemple, toute cette somme de connaissances qu'on a acquis, hein, puisqu'effectivement, l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, on est en plein dans l'étude, la formation, on a des espèces d'éponges qui accumulent énormément de connaissances. Et moi, j'ai commencé ma formation dans cette école de philosophie Nouvelle Agropole à Buenos Aires quand j'avais 17 ans. J'étais en train de finir mon école secondaire et comme j'étais une bête à études et j'aimais tout, étudier tout et tout et tout, bon, j'adorais, enfin, quand j'ai commencé à découvrir la philosophie, c'était une espèce d'étape antagonique, n'est-ce pas, d'exaltation, de contact avec la connaissance. Mais, autant, effectivement, comme il explique un petit peu, ou d'autres l'expliquent, dans l'adolescence, notre mental est très rapide. On est bon pour toutes les connaissances théoriques. Et on peut cumuler beaucoup de choses. Je pense que vous avez vu la capacité qu'on a d'études dans ce temps-là. C'est peut-être pour ça qu'on bosse comme des fous dans ce temps-là. Et on a cette impression extraordinaire de posséder la connaissance. Mais c'est un leurre formidable, parce qu'en fait, c'est tout à fait intellectuel, tout ça. Pour ça que quelqu'un disait, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Effectivement, on étudie pour passer les examens. Mais après, qu'est-ce qui reste de tout ça? Si on nous demande maintenant de passer les bacs comme nos jeunes générations, peut-être on aurait quelques difficultés, d'accord? Mais tout ça, on l'a su, on l'a étudié, etc. Mais en réalité, ce qui est important, c'est que dans cette deuxième phase de l'existence, à laquelle il va donner beaucoup, beaucoup d'importance, sur la mesure qu'il avance dans la vie, il n'est plus question, disons, d'être des sortes de perroquets répétiteurs. Et pour ça, heureusement, on a Internet, maintenant, vous appuyez les boutons, vous avez toutes les connaissances du monde à disposition. Donc, ça prouve bien que la question d'être des simples répétiteurs n'est pas l'objectif. Mais il se produit quelque chose dans cette deuxième étape, comme ce qu'il disait là, ce soleil qui entre en contraction avec lui-même, il va chercher quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, l'être humain, dans ce temps de maturation et de maturité, ce deuxième âge de la vie, va chercher quelque chose qui sera, par rapport à l'expérience vécue, qu'est-ce qu'il va transmettre d'essentiel. Ce qui est passé à travers son expérience va donner une petite goutte de sagesse. Mais, bien sûr, à condition d'avoir fait bien le travail, vous voyez, de passer les étapes correctement et pas se tromper des cibles. Il y en a qui croient, une fois qu'ils sont arrivés à midi, que c'est toujours midi. Donc, ils continuent dans cette importance à donner à l'ego, à l'apparence, à l'extériorité. Et je ne ferai pas un dessin de l'état de l'Occident, puisque justement, c'est notre énorme défaut. La superficialité, l'extériorité, les m'as-tu vu, la dépendance extrême du regard des autres. Donc, quand on est là, on n'est pas sorti de l'auberge, enfin. Par rapport à la vision jungienne, on s'est trompé de chemin. On n'assume pas la cyclicité. Mais ça fait partie de la maladie occidentale, puisque nous sommes des amoureux du mythe du progrès. Vous avez entendu parler du progrès. Chaque fois mieux, ne vous inquiétez pas, on a démoli la moitié de la planète, mais c'est pas grave, vous allez voir, les transhumanismes vont nous sauver, on va exporter toutes nos poubelles à l'extérieur, ça sera la Lune, les astéroïdes, on va piquer... Pas de problème, les progrès continuent. Fonctionner comme ça, c'est être complètement antinaturel. Et quand Jung nous parle du modèle du soleil, il nous parle de quelque chose de naturel. Tout dans la nature est cyclique. Tout fonctionne par des cycles. Et il a un terme que j'adore, qui est assez compliqué, mais qui est super, super intéressant, qui l'explique et qui va se produire dans cet âge mûr, qui est ce qu'il appelle l'énantiodromie. Je vais peut-être l'écrire, hein. Ouais, on l'écrit. Ça sera mon cadeau de la soirée. Ah non, c'est pas vrai. Vous avez raison. C'est pas que c'est pas vrai, c'est que c'est vrai. Enantiodromie. Alors, ça veut dire quoi, cet enantiodromie? Eh bien, c'est un tout petit peu revenir à Héraclite, revenir, vous voyez, au merveilleux premier philosophe grec. Enantios veut dire le contraire, et dromos, la course. Donc, c'est courir dans le sens contraire. À un moment donné, quelque chose qui allait dans un sens va aller dans le sens contraire. Prenons le cycle des saisons. Au printemps, on a nos jolis arbres, on a les petites feuilles qui commencent à pousser, la nature qui s'épanouit, tout est beau, les fleurs, les fruits. Arrive l'automne, enfin, quand les saisons étaient des saisons, puisque maintenant, c'est plus mon année. Qu'est-ce qui va se passer? Tout va devenir jaune, n'est-ce pas, ces petites feuilles vont commencer à tomber. L'hiver, les arbres sont complètement nus. On est dans une sorte de monde sans dessus-dessous. C'est pour ça que les Romains fêtaient les Saturnalias à ce moment-là. Ce moment de mort, de chaos, de transformation, où tout est à l'envers. Quand les choses tournent dans le sens contraire. Vous voyez? Une chose amène à l'autre. On est le matin et après on passe au soir. Tout est dans un jeu de polarité. Au coup de midi, s'amorce la descente qui implique renversement de toutes les idées et valeurs que l'on chérit au matin de notre vie. Les jouets pour lesquels on arrache les yeux à ses petits camarades quand on est petit n'ont pas la même signification dans l'hiver de la vie. Vous voyez? On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes besoins. On est dans une autre étape de l'existence. Mais une étape qui est, pour Jung, extrêmement importante. Il disait, de manière assez pratique, si la nature nous fait vivre assez longtemps, Même quand on n'est plus aussi utile et aussi fonctionnel, disons, pour produire ou pour travailler, c'est que tout ce temps-là dans lequel on vit doit servir à quelque chose. Parce que la nature est pratique, elle est pragmatique. Donc la vieillesse n'est pas une sorte de poubelle ou de potoir dans lequel on met des gens qu'on ne sait pas quoi faire avec. Si nous ne savons pas quoi faire avec les vieillards ou avec les anciens, c'est parce que nous avons perdu les minimums de bon sens, les minimums de sagesse qu'avaient les anciens. Si nous reprenons, par exemple, la notion des quatre âges dans la tradition hindoue, il y avait toute cette idée qu'à partir du moment où on a fini les temps de production et d'action dans la société, dans le monde, on s'est retiré du monde. On s'est retiré dans la forêt, on quittait, disons, toutes ces richesses, même les gens, disons, les plus riches s'est retiré. Et encore, s'ils avaient la capacité et le pouvoir, après, ils n'avaient même plus refuge dans la forêt, ils devenaient des mendiants et des errants qui erraient à travers tout le pays. Donc c'est ce qu'on appelle les sans-racines, un peu comme c'était les moines bouddhistes. Pourquoi? Parce que les quatre buts de l'existence, les quatre buts dont parle la tradition et la philosophie hindoue, était moksha, la libération, le détachement. Donc, tout dépend, vous voyez, de comment on considère l'être humain. Est-ce que nous sommes un corps qui a peut-être une espèce de petite chose négrichonne qu'on appelle l'âme, ou sommes-nous une âme qui s'appuie sur un corps? Si on mise tout sur le corps, je dirais qu'on mise sur le mauvais cheval, parce que de toute manière, il va avec le temps, petit à petit nous abandonner. C'est normal. C'est l'usure naturelle de la dimension physique. Par contre, si la conscience est plus attachée à cette recherche de ce qui est, de cet être du soi, si les messages du soi sont davantage écoutés depuis le départ, puisque le soi va se manifester à chaque fois à sa manière, eh bien, on va comprendre qu'à un moment donné, il va falloir quitter ce support physique pour pouvoir mettre l'accent sur cet être intérieur, sur la partie invisible de nous-mêmes. Et c'est pour ça que, quand nous arrivons à cet âge mûr, à la maturité, à cette énantiodromie dont il parle, les renversements des valeurs, on commence à valoriser les faits, comme dit Jung à ce moment-là, à partir du milieu de la vie, ne reste vivant que celui qui veut bien mourir avec la vie. Donc il disait, il y a quelque chose de grave dans nos sociétés quand on rejette le thème de la mort. Parce que rejeter la mort, c'est reculer devant la mort, c'est dépouiller de sa finalité la deuxième moitié de la vie. Dans la première moitié de la vie, difficile de penser à la mort. D'ailleurs, quand j'ai fait mon petit livre sur les âges de la vie, j'avais expliqué justement les visions de la mort qu'on a selon les âges. Alors c'est amusant parce que l'enfant, le tout petit enfant, passe par différents stades qui sont bien étudiés. Un premier stade dans lequel la mort n'existe pas, elle est comparée à un sommeil, on dort. Après, bon, c'est quelque chose de naturel, ça fait partie des cycles de la nature. Ou avant, disons, il va même considérer l'enfant que les autres meurent, mais pas lui. Hein. Donc c'est amusant parce qu'on porte en nous, voyez, les germes, une sorte de conscience de durée et d'immortalité. Après, à l'adolescence, où il y a cette espèce déjà de première mort qui se vit dans le passage de l'enfance à la puberté, c'est un moment de déchirement très important, d'extrême. Il y a un dialogue beaucoup plus fort avec la mort, donc l'attraction de la mort. C'est pour ça que les adolescents vont pousser les limites, parce qu'ils veulent savoir vraiment où sont les choses, quelles sont les limites des choses. Les sociétés archaïques faisaient toujours des rites initiatiques pour assurer le passage de l'enfance à l'adolescence, parce que c'était mourir à l'enfant pour naître à l'adulte. C'est nous qui avons inventé les adolescents, ils sont devenus des adolescents. Mais donc, jusqu'à 30 ans, on se demande si vraiment il faut sortir du cocon. Parce qu'en fait, comme nous ne croyons plus à la cyclicité, et on n'accepte pas de mourir à toutes ces différentes transformations de nous-mêmes, on est comme des serpents, l'image que je donne, c'est un serpent qui a plein de vieilles peaux. Ouais. Je dis, on sait jamais, je vais garder celle-là quand j'avais 1 an, celle-là quand j'avais 2 ans. Et c'est des serpents multicolores avec plein de petits bouts de peau qui pendent de tous les côtés. Mais si on faisait confiance à la vie, hein, on lâcherait la vie pour prendre la nouvelle. Mais non, on ne fait plus confiance. Donc, on fait ça. Même si on a des poids artificiels, encore plus content. Mais c'est quand même un peu grave comme histoire. Enfin, ce que je voulais expliquer, quand on arrive au jeune adulte, on est tellement occupé que vraiment la mort n'existe pas. C'est pas notre problème. Il va falloir arriver à la crise de la quarantaine, donc de la maturité, pour commencer à voir mourir des gens, des êtres chers autour de nous. Vous direz, mais quand même des morts, on en voit partout. Oui, mais c'est des morts artificielles. Les morts à la télé, ça n'a pas d'odeur, vous comprenez? Ça ne gicle pas, ça ne sent pas mauvais. Les morts de jeux vidéo, il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi faire. Mais quand il y a l'être cher, l'être proche qui meurt, ah, ça change tout. Vous comprenez? Parce que il y a une notion de vécu, de proximité, ça devient quelque chose de touchable, de réel. Je ne dis pas que ce soit la situation de tout le monde, bien sûr, il y a une diversité des cas, mais je parle d'une manière générale. C'est pour ça qu'en fait, il y a 5 questions qu'on se pose au long de la vie. Quand on naît, on se pose la question « Où suis-je ?» L'enfant qui naît, il doit se situer dans l'espace-temps. Il vient de quelque part, c'est pas trop bien d'où, mais enfin, il vient dans le monde invisible au moins. Il atterrit dans le visible et il faut déjà se situer dans les coordonnées spatio-temporelles. Dans l'adolescence, il y a ce déchirement pour arriver à peu près à situer son identité. Qui suis-je? Les questions existentielles, on se les pose à l'adolescence. Le jeune adulte, lui, il va se demander « Que vais-je faire de ma vie ?» Donc, il est hyper occupé. Il faut qu'il rentre dans la vie, il trouve un boulot, vie de couple, association. Enfin, tout ce qui va l'intéresser, il est super occupé. Donc, la mort, c'est pas son problème. Okay? Quand on arrive à la maturité et que des êtres chers commencent à souffrir et les situations deviennent un peu plus... On s'arrête un tout petit peu dans la course du hamster qui court tout le temps. On commence à s'interroger. Alors, mais qu'est-ce qui est l'essentiel? Et il y a plein de cas, des parents qui regrettent de ne pas se occuper de leurs enfants, etc., etc. Entre autres choses. Et en même temps, donc, la notion de la mort commence à devenir quelque chose de plus tangible, de plus réel. Et normalement, la belle vieillesse c'est traduit par le fait « Que vais-je transmettre aux autres ?» Parce qu'il y a la notion justement de la transmission, de la générativité. Tout être humain a besoin de transmettre quelque chose à ceux qui le succèdent. C'est pas seulement un patrimoine en pierre, hein, c'est aussi une expérience de vie. Actuellement, nous arrivons au 11 novembre, où on va fêter les centenaires de la Première Guerre. Et qu'est-ce qu'il y a partout? Qu'est-ce qu'on cherche partout? Les témoignages. Les récits, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ça s'est passé, et on voit l'importance de cette notion de transmission, de faire passer quelque chose qui est associé avec cette capacité de vécu intime. Et le cas de Jung par rapport à ces notions de la vie, d'accepter la mort comme quelque chose de naturel, est assez extraordinaire, puisqu'il est né en 1875, mort en 1961, actif jusqu'à la fin de son existence, sans aucun problème. Bien sûr, son corps n'était pas aussi vif qu'avant, mais son esprit était de plus en plus riche. Et combien de cas de vieillards extraordinaires nous n'avons pas, même en France, pas des gens remarquables par leur sagesse, parce qu'ils arrivent à décanter quelque chose qui est de plus en plus subtil. Récemment, on m'a montré une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube de Rubinstein à ses 90 ans. C'est les grands pianistes, Rubinstein, dont vous parlez. Alors, je vous conseille de la voir, c'est dans une interview de télé. Ah, bah, elle est en anglais, traduit en espagnol, mais probablement, on va pouvoir se débrouiller pour trouver une version française. Alors, c'est amusant parce qu'il raconte justement l'essentiel qui sort de ça, c'est une soif de vivre, une capacité de vie, d'aimer la vie. Il raconte qu'il a appris à aimer la vie à 20 ans, quand il avait loupé sa mort. C'est-à-dire qu'en fait, il est assez malheureux, il a des histoires d'amour, des histoires de manque d'argent, etc. Donc, il décide de s'épandre. Mais, faute de chance, il ne met pas bien la corde, boum, il tombe. Bon, il se relève, il sort dans la rue, il commence à avoir faim, et il commence à marcher, et il se rend compte qu'il est vivant. Et il est super content, parce qu'il a découvert qu'il était vivant. et que l'important dans la vie n'était pas les réussites amoureuses, professionnelles ou autres, vraiment d'être des agents de quelque chose d'autre qui est l'âme et qui est la vie. Magnifique. Et ce vieux monsieur de 90 ans dégageait une lumière, quelque chose de tellement extraordinaire que ça valait la peine, disons, de le voir. Puisqu'en fait, quand nous arrivons vers cette fin de la vie, il y a deux options, deux choix qui se présentent à nous. La voie de la transformation, de la métamorphose intérieure, mais qui nécessite d'avoir accepté de passer par tout un tas de mutations et de petites morts tout au long de notre vie. C'est pour ça que la déesse de la vie en Grèce, qui était Déméter, la déesse de la nature, autour d'elle, on célébrait les plus grands mystères qui étaient les mystères de l'Osis, qui étaient les mystères de la vie et de la mort. Peut-être que vous avez entendu parler. Les gens les initiaient dans cet endroit. On évoquait la mort de sa fille Perséphone. Enfin, en fait, la fille Perséphone est enlevée par Hadès, le dieu des morts. Et après des longues négociations, sa fille peut passer 6 mois avec elle et 6 mois dans le monde des enfers. Et en fait, elle évoque la graine que l'on plante à l'automne et qui repousse au printemps. Et cycliquement, cette petite graine part réparée. Mais ce qu'on enseignait dans ces mystères, c'est que si on avait l'impression que la graine mourait, disparaissait, renaissait, et à chaque fois elle était différente, en réalité c'était toujours la même. Parce que ce qu'on apprenait dans les mystères de l'Osis, c'était le mystère de l'immortalité de l'âme. Bon, mais ça nous amène au monde des Grecs, pour lequel il y a Nous, qui est l'âme immortelle, Psyché, qui est notre âme mortelle, et Soma, qui est notre partie corporelle. Aujourd'hui, déjà, nous avons du mal à savoir si on a une âme. Alors, savoir si on a une âme immortelle, c'est un peu loin. Mais donc, par des étapes successives. Déjà, au moins, si l'on peut décrypter et se sentir proche de la force extraordinaire de la lumière, donc de la vie, c'est déjà une assez bonne chose. Donc, soit on est dans une perspective de transformation, soit on tombe dans la sclérose et la cristallisation. C'est ça le problème. Donc on a deux manières d'accéder à ce temps de la vieillesse. Un dans lequel, enfin, lui dira, il y a 3 stratégies dans le vieillissement. L'abattement, quelle horreur, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et donc les gens qui ne s'étaient pas préparés, apparemment ils n'ont pas observé autour d'eux comment les choses se passent. Parce que quand même, dans les liens comme il y a de moins en moins les liens des générations, c'est peut-être pour ça qu'on voit pas les anciens autour de nous. Mais néanmoins, c'est comme ça. Regardez simplement un bouquet de roses. Vous voyez, parfois c'est joli de voir comment les roses, vous avez un tout petit, comment dirais-je, bourgeon qui commence, une rose toute belle, épanouie, et la troisième qui commence à perdre ses pétales. Dans un rosier, vous avez une leçon de vie extraordinaire. Tout ça était symbolisé par les Grecs, par la déesse Héra, qui n'est pas simplement l'époux jalouse de Jupiter, de Zeus, qui, avec les bâtons, les poursuit, mais elle symbolisait la totalité de l'expérience de la vie et de l'âme féminine. Pour ça, elle était associée au printemps, à l'automne et à l'hiver. Donc, cette transformation du cycle de la vie. Alors, abattement, déni. Alors, déni, c'est ceux qui pensent qu'ils continuent à être toujours jeunes. Donc, ils s'habillent comme des jeunes, ils continuent à faire des trucs comme si de rien n'était. Mais ça veut dire que leur moi et leur ego extérieur est encore trop important. Alors, ils n'ont pas compris qu'il y avait la cour où ils devaient passer par là. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on atterrit mal. Ou bien, affronter avec conscience, c'est fait de s'éteindre avec la vie. Dans ces cas-là, cette fin de l'âge mûr a comme objectif une certaine forme de sagesse, qui est le contraire de la sénilité. Quand j'expliquais cette idée de ces 4 âges dans les traditions indiennes, évidemment, si on compare ça avec l'idée des castes associées à des états de conscience, en fait, l'état, disons, de Brahman, qui est l'état, disons, le plus avancé, est associé à la vieillesse et à la sagesse. Si notre modèle est simplement la jeunesse, disons qu'il nous manque un peu dans le chemin de la journée de l'existence, puisque notre horizon est juste midi. Et qu'est-ce qui se passe après? Tout ce qui vient après, on ne le valorise pas. Et néanmoins, comme nous avons fait des super avances technologiques et scientifiques, on a de plus en plus de personnes très âgées. Donc, ça serait intéressant de voir de quelle manière intégrer de façon plus sage toute la sagesse et la force qu'elles peuvent apporter. Parce qu'effectivement, elles apportent déjà dans nos sociétés. C'est la vérité. Mais cette troisième âge est extrêmement actif. Donc, l'idée à retenir un petit peu de tout ça, c'est que, oui, il y a un jeu des âges de la vie dans lequel chaque moment va permettre d'activer différents éléments, différents archétypes. Je ne développe pas dans les détails parce que c'est simplement une conférence de présentation. C'est l'objet, disons, de ce cycle que nous allons faire où on va détailler tout ça d'une manière plus complète. Dans l'enfance, il y a toute cette idée, enfin, de se nourrir de l'éros, ce que Jung appelle l'éros maternel et l'ogos paternel, puisqu'en fait, tout être humain porte en lui-même en même temps, dans ce jeu de polarité, les masculins et féminins. Il faut qu'il intègre ces éléments-là. Pour Jung, si nous sommes objectivement manifestés comme femmes, notre inconscient porte un archétype masculin qu'il appelle l'animus. Et si nous sommes manifestés comme hommes, notre inconscient porte la contrepartie qui est l'archétype féminin, l'anima. Dans la deuxième partie de notre existence, on sera très attiré pour manifester les qualités qui se cachent dans l'inconscient. Donc ça va accentuer la polarité complémentaire. Mais accentuer la polarité complémentaire ne veut pas dire renoncer à ce que l'on a au niveau, disons, de sa manifestation objective. Vous comprenez, il faut savoir travailler toujours dans l'idée de compléter les choses et pas de les opposer. Nous sommes dans une notion d'opposition et de dualisme parce qu'on a perdu la notion de totalité, d'implication, d'imbrication des choses. L'univers joue avec les jours et la nuit en même temps. Et Fernand Schwartz dit toujours cette question, quelle heure est-il sur la Terre maintenant? Bon, pour nous, c'est presque 9h du soir. Mais si vous êtes dans l'autre hémisphère, ça sera le matin, vous comprenez? Donc, la Terre est à quelle heure? Toutes les heures. Tout existe simultanément. Et toute la question, c'est la subtilité de l'équilibre délicat entre les choses. Et plus on s'affirme soi-même comme un être global, plus on peut dialoguer, établir une relation avec les autres qui sera également significative et valable. Toute la question est de se dire, est-ce que nous sommes venus ici pour passer un peu de temps, de bon temps, pour nous ennuyer? Pourquoi on est là, hein? C'est la question du sens de l'existence. En réalité, peut-être que la vie est un voyage de la conscience. Si on considère la vie comme le voyage de la conscience, il faut qu'on puisse gagner en conscience de plus en plus. Ça veut dire transformer l'inconscient en conscient. Ou permettre au soi de rayonner de plus en plus à travers, disons, les expériences que nous vivons. C'est un exercice assez riche et assez vaste. Donc, ça impliquerait, par rapport à l'éducation, par rapport à tout ce que nous faisons aujourd'hui, peut-être de ne pas mettre l'accent seulement sur cette valorisation de la première moitié de l'existence, ou faire de nous, dans l'école, entre guillemets, ce que j'appelle des bons petits producteurs, des bons petits techniciens, puisqu'on nous apprend à rentrer jusqu'à à peu près ce milieu de la vie. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on débauche les gens parce qu'on ne sait plus quoi faire, ils coûtent trop cher. C'est ridicule. Il y a quelque chose qui manque dans l'éducation. Et ce qui manque, c'est ajouter la dimension du sens de l'existence, de la vie humaine. Où est l'humain dans tout ça? Vous comprenez? Où est ce qui va nous permettre de nous épanouir comme des êtres accomplis et totaux? C'est ça l'interrogation à laquelle nous invite entre autres Jung dans sa réflexion, comme se disant que quand même, effectivement, il est important d'intégrer à la fois le temps de l'expansion, le temps, disons, de l'intériorisation, le temps de la lumière, le temps de l'ombre, comme l'histoire de l'Évangile qui dit un temps pour chaque chose. C'est un temps pour chaque chose et un temps qui inclut tous les temps. Donc si on voit la vie, sa propre vie, comme une totalité d'expérience, ça peut être vraiment extrêmement enrichissant. Mais ça implique un tout petit peu changer nos priorités et nos préoccupations. Alors si vous êtes ici, c'est que je pense que vous avez des préoccupations qui vont dans ce sens. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Voilà, moi je voulais juste présenter ces sujets d'une manière un tout petit peu large, sans rentrer trop dans des détails techniques. Mais ça me paraît important de savoir que par rapport à d'autres courants, disons, de psychologie qui ont mis beaucoup l'accent, comme toute la vision freudienne, dans l'enfance, tous les plans de l'enfance, Jung va compléter les cycles. Vous voyez, il va donner beaucoup d'importance à la deuxième période de l'existence, en expliquant que vraiment tout le travail de l'individuation va se faire plutôt dans la deuxième moitié de la vie que dans la première. Parce que dans la première, nous sommes vraiment très préoccupés à construire les outils. Mais même quand on construit les outils, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déjà donner la dimension intérieure de la spiritualité. Comprenez, l'enfant est déjà, il porte en lui le soi, et pas seulement le petit moi. Donc il y a les petits moi et les grands moi. Donc il faut commencer à lui expliquer tout ce qu'il porte en potentialité. Sinon, il va être tellement, enfin c'est un peu l'éducation moderne, on donne tellement d'importance à la réussite extérieure que tous les contacts avec l'intériorité en nous-mêmes est laissé pour, si on a le temps. Il ne faut pas raisonner comme ça. L'éducation matérialiste dirait, d'abord donnons à manger aux gens, une fois qu'on a réglé les problèmes matériels, on passe au spirituel. Non. Quand le bébé est conçu, n'est-ce pas? Le fœtus, c'est extraordinaire, vous avez vu, il a la tête, les bras, les petites jambes, les petits doigts, tout. Il est une totalité. On n'est pas en train de dire, bon, d'abord on met la tête, après on va, ah oui, peut-être il faut des bras pour prendre les choses, ah, peut-être il faut des jambes pour avancer. Non. On fait pas les trucs par étapes. Il est pensé comme une totalité. Donc on est dans la totalité depuis le départ. Donc depuis le départ, il faut savoir à quoi nous aspirons. Qu'il y a aussi des êtres formidables que même s'ils vivent dans des circonstances assez terribles, ils vont s'en sortir, ils vont exprimer la puissance de leur âme, c'est vrai, parce qu'ils sont davantage en contact avec leur propre intériorité. Un Beethoven est vraiment impressionnant. Il a déjà une vie personnelle assez dramatique depuis le départ, et ensuite c'est un génie qui fait des compositions et des musiques extraordinaires tout en étant sourd. Il faut le faire. Vous voyez, les contextes physiques ne l'empêchent pas de faire émerger toute cette force et cette lumière qu'il porte en lui. Alors, que faisons-nous pour que chaque être humain puisse donner la plus grande de ses lumières intérieures? Ou la question serait, est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut? On ne peut pas dire qu'on n'a pas des moyens. On peut dire simplement qu'ils ne sont pas bien orientés. Enfin, à notre avis. Sinon, on ne ferait pas une école de philosophie pour que les choses changent. Bon, mais on a fait tellement de bêtises que les gens commencent à s'interroger. L'intérêt, c'est que maintenant, la philo devient intéressante. C'est à l'intérêt de se tromper. Parce qu'en se trompant, à un moment donné, on se réoriente. Et il faut œuvrer pour, disons, ce passage, cette transition que nous sentons tous dans le monde actuel, vers ces besoins de plus d'humanité, de plus de fraternité, de plus de spiritualité, dans le sens justement de nous relier à l'essentiel. Alors, si nous nous relions déjà à l'image du soleil, c'est pas mal. Et si on apprend avec ce soleil, qui a un temps pour s'extérioriser et un temps pour s'intérioriser, on va apprendre à respirer. Et respirer est très utile aussi, puisque ça nous permet de valoriser ce qui sort et ce qui rentre, donner et recevoir. Et pour revenir à ce double jeu du masculin-féminin, auquel aussi Jung va donner beaucoup d'importance, pour lui, le féminin extériorise les rôles de l'éros, c'est-à-dire la force du lien, et ce qui relie, ce qui porte la vie, et le pôle masculin extériorise les rôles du logos, ce qui différencie, ce qui clarifie, ce qui résonne, ce qui donne la vision des choses. Donc il faut combiner la vision et le souffle. Parce que l'éros est le souffle qui relie toutes les choses. Et le logos, c'est la vision qui clarifie chaque chose. Différencier et relier. Si on apprend à travailler comme ça, je pense qu'on peut aspirer à faire que nos vies soient plus complètes, plus riches. Et si chacun de nous avance dans l'individuation, un ensemble d'êtres qui sont individualisés, c'est-à-dire qui essaient de faire émerger le meilleur d'eux-mêmes, ne peut donner qu'une humanité, une civilisation meilleure. Donc plus humaine et plus riche. C'est tout ce à quoi nous aspirons. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura personne qui va venir le faire pour nous. On n'est plus dans les temps des sauveurs qui sauvent l'humanité, on est dans les temps où sauf qui peut. Enfin, je veux dire, et toi et le ciel t'aidera. Il y a assumé chacun sa part de responsabilité dans ses projets. Et justement, on va s'enrichir de l'apport de chacun. Il faut que les différences soient justement valorisées, parce que c'est ça qui est intéressant. Chacun est unique. Et tous ces uniques constituent un tout fort intéressant. Comme dans notre corps, non? C'est pas pareil, la tête, les jambes, les pieds. Et tous ces différentes parties, organes, cellules, ça fait un organisme qui fonctionne. Donc toute la question est, est-ce que nous avons envie de faire une humanité qui fonctionne comme une unité, tout en respectant la diversité, ou redevenons tous des petites vers des terres indifférenciées? Non, je pense que la différence est intéressante. Bon, voilà ce que je voulais vous dire.